Et sans plus tarder, je vous invite à ouvrir la parole du Seigneur ce matin. Nous allons voir une question que le Seigneur Jésus a posée. Et elle m'est vraiment venue à cœur quand je préparais ces moments. C'est une question qu'on connaît bien. Nous allons lire le passage dans l'évangile de Marc au chapitre 8. Et nous allons lire à partir du verset 27. Alors soyez pas surpris si ma version est un peu différente de la vôtre, mais je lis pas dans la version seconde, mais dans la version seconde 21. Marc 8, verset 27, nous lisons ceci. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages voisins de Césarée de Philippe. Il leur posa en chemin cette question. « Qui suis-je d'après les hommes ?» Ils répondirent « Jean-Baptiste, d'après certains, Élie, d'après d'autres, l'un des prophètes. » « Et d'après vous, qui suis-je » leur demanda-t-il. « D'après vous, qui suis-je » Pierre lui répondit « Tu es le Messie. » Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur cette question. Dans la version seconde, il est dit « Qui dites-vous que je suis ?» Et ce matin, j'aimerais vraiment qu'on puisse s'arrêter sur cette question. Elle est, c'est vrai, bien connue. « Qui dites-vous que je suis ?» En plus, c'est facile parce qu'on a la réponse déjà. Donc, c'est bien. Quand on pose une question et qu'on a déjà la réponse qui est donnée juste après, c'est plus facile pour répondre à la question. Mais autant la réponse paraît facile, tu es le Messie. Autant j'aimerais qu'on puisse rentrer peut-être un peu plus en détail sur cette question et ne pas simplement s'arrêter à la réponse que Pierre a donnée. Qui dites-vous que je suis ? Et pour cela, on va voir d'autres questions. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais du temps de Jésus, c'était un peu l'habitude. Ils aimaient répondre à des questions par des questions. C'était un peu un jeu entre eux. C'était culturel, c'était comme cela. Et en fait, je me suis pris au jeu. Et pour pouvoir vraiment rentrer dans le détail de cette question, on va regarder trois autres questions qui ont été posées, toutes par Jésus. Toutes par Jésus. Et la première se trouve toujours dans l'évangile de Marc, au chapitre 10. Et au verset 51, il nous est dit... Alors, on pourrait lire le contexte. On va lire à partir du verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?»« Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Donc, nous avons là une nouvelle question. « Que veux-tu que je te fasse ?» Alors, quand on regarde un peu le contexte de ce passage, on pourrait se dire que quand même cette question est un peu osée, un peu embarrassante, un peu gênante. Je ne sais pas si à la place de Jésus, vous auriez osé poser cette question à une personne qui est aveugle ou une personne qui est gravement malade et lui dire « Mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse ?» Et pourtant, Jésus a osé poser cette question-là. Et déjà, j'aimerais un peu nous arrêter sur la réaction de Bartimée. Je ne sais pas, à votre place, peut-être que si vous étiez à la place de Bartimée, si le Seigneur Jésus ce matin vous posait cette question, « Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ?» Alors que peut-être ça fait des mois, des semaines, des jours entiers, des années que tu es en train de prier parce que tu as un mal dans ton corps qui ne te quitte pas. Et tu es là en train de supplier le Seigneur Jésus, et Seigneur Jésus, interviens, interviens. Et puis d'un coup, le Seigneur vient vers toi et te dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Comme si le Seigneur Jésus n'était pas au courant du besoin que tu avais. Peut-être que tu es dans une situation extrêmement compliquée et tu supplies le Seigneur Jésus de venir, d'intervenir comme si tu étais en train de te noyer et que tu n'attendais que le Seigneur vienne et te retire de cette eau. Et le Seigneur arrive, se présente devant toi et te dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Et peut-être que tu serais choqué, interpellé par cette question du Seigneur Jésus dans la situation dans laquelle tu te trouves. Et pourtant, nous voyons que cet homme ne s'est pas arrêté à cette question-là, comme si c'était un peu déplacé, mais il a simplement fait connaître son besoin au Seigneur Jésus. Une simplicité exemplaire. Seigneur, Maître, il va l'appeler, que je retrouve la vue. Et même si cette question peut être un peu perturbante, elle nous apprend déjà un peu l'état de notre cœur. Comment vas-tu réagir si le Seigneur Jésus te pose une question par rapport à une chose que tu lui demandes jour et nuit? Est-ce que tu vas faire comme cet homme, te répondre simplement que je retrouve la vue, que tu puisses intervenir dans mon besoin? Ou alors vas-tu être un peu, comment dire, surpris, peut-être un peu étonné, te dire, mais quand même, Seigneur Jésus, mais tu sais ce que je te demande? Alors le Seigneur Jésus ne juge pas, heureusement il nous fait grâce, mais cela déjà va nous révéler un peu notre état de cœur profond, parce que nous pouvons demander une chose et être dans un mauvais état d'esprit. Mais cette question va aussi nous montrer autre chose. Elle va nous montrer aussi que nous pouvons demander au Seigneur Jésus ce que nous savons capable que la personne est capable. Pardon, nous allons demander à Dieu ce que nous savons que Dieu est capable de faire. Par exemple, pour prendre un exemple concret, nous allons pas demander à un boulanger de faire de la plomberie, ou alors nous allons pas demander à un électricien de faire du pain, parce que nous savons qu'un électricien fait de l'électricité et nous savons qu'un boulanger fait du pain. Et cette question-là, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Nous allons pouvoir dire à Dieu, écoute Seigneur, je veux que tu me fasses ceci ou cela, parce que nous savons que Dieu est capable de faire ceci ou cela. Qui dites-vous que je suis? Qui dit-on que je suis? Je reviens à ma question principale. Et à la lumière de cette question, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Nous voyons déjà que nous allons répondre à cette question, qui dis-tu que je suis? Nous pouvons dire que Dieu est tout-puissant, mais peut-être que dans notre cœur, nous le limitons. Peut-être que dans notre cœur, dans la réalité, nous confions pas totalement dans la puissance de Dieu. Que veux-tu que je te fasse? Dieu veut agir pour toi, mais peut-être que quand tu vas te présenter devant lui, tu vas dire, écoute, peut-être que tout ton corps est malade, mais tu vas dire, écoute, Seigneur, si au moins tu peux juste guérir ma main, parce que c'est ce qui me fait le plus mal, mais tout ton corps est malade. Donc tu vas limiter Dieu à une capacité de dire, il peut guérir peut-être que ma main. Alors que Dieu veut te guérir entièrement. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le déclare. Dieu veut te guérir entièrement. Et bien des fois dans notre vie, nous limitons Dieu. Nous disons, oui, qui dites-vous que je suis? Dieu est le Tout-Puissant. Et pourtant dans notre vie, par nos prières ou par nos attitudes, nous allons limiter la puissance de Dieu. Mais pourtant, qui dites-vous que je suis? Et nous allons le limiter. Mais nous avons besoin de comprendre que Dieu n'est pas limité. Nous avons besoin d'expérimenter ça, que vraiment Dieu est grand. Une autre question que nous allons voir et qui est introduit par la réponse de Jésus à l'attitude de cet homme. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Ou, pardon, je crois que c'est va, ta foi t'a sauvé. Et ta foi t'a sauvé. Nous allons donc voir un autre passage. Matthieu, chapitre 14, verset 31. Encore une question que le Seigneur Jésus va poser. C'est pour peut-être pas tout relire le contexte. C'est une histoire aussi que l'on connaît bien quand Jésus va rejoindre les disciples qui sont sur la barque au milieu du lac. Il y a là une tempête et le Seigneur Jésus va faire un miracle exceptionnel. Il va marcher sur les eaux, il va rejoindre les disciples. Et on voit, on peut lire peut-être à partir du verset 26, il est dit « Quand les disciples virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre leur répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau !» Jésus lui dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Et la même question est posée toujours dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8 et au verset 26. Pareil, après que les disciples, cette fois Jésus était avec eux dans la barque, mais pareil, ils ont vécu une tempête. Jésus dormait dans la barque et Jésus les a réveillés. Les disciples ont réveillé Jésus et lui dit « Mais Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Jésus s'est réveillé à parler à la tempête « Vent, tais-toi, mer, calme-toi » et tout s'est arrêté. Et puis il va regarder les disciples et leur dit « Mais pourquoi avez-vous peur, Jean, de peu de foi ?» Donc ces deux questions sont là, un peu les mêmes. Elles sont là, posées par le maître, Jésus. Alors, ces questions peuvent un peu interpeller, mais déjà voyons un peu le contexte. Les deux sont posées dans l'épreuve, la tempête. Quand tout nous secoue, quand les vents sont là, au contraire, quand les vagues sont là, prêtes à nous submerger, quand les difficultés sont là, quand la tempête est là. Et on voit Jésus qui, dans ces deux situations, pose cette question-là. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Pourquoi avez-vous eu peur, Jean, de peu de foi ?» Alors, vous inquiétez pas, ce matin, je suis pas là pour vous juger ou pour vous jeter la pierre. Mais il me fallait parler de la foi, parce que la foi est vraiment une chose inhérente à la vie du chrétien. On ne peut pas dire qu'on est chrétien sans avoir la foi. Et puis, cette question-là de la foi va nous aider à mieux comprendre toujours cette question. Qui dites-vous que je suis ? Le doute, les peurs sont des choses qui sont là dans nos vies. Bien des fois, et on le voit, bien des personnages dans la parole de Dieu ont douté, ont eu peur. Mais Dieu pourtant interpelle ses disciples qui sont avec lui. Pourquoi avez-vous eu peur? Pourquoi douter? Encore une fois, l'épreuve nous en apprend un peu plus sur nous. L'épreuve est un véritable révélateur de qui nous sommes. L'épreuve est un véritable révélateur de ce qu'il y a au fond de nous. Qui dit-on que je suis ? Qui dit-on que je suis ? Qui dites-vous que je suis ? Mais oui, tu es ce Dieu qui est tout-puissant. Tu es ce Dieu qui est capable de calmer la tempête. On connaît toutes ces histoires, donc c'est facile pour nous, de par notre connaissance intellectuelle, de pouvoir répondre à cette question et de pouvoir dire haut et fort des choses. Et pourtant, quand la situation va se présenter personnellement, est-ce qu'on sera capable, une fois qu'on sera ballotté à gauche, ballotté à droite, de pouvoir dire cette même phrase ? Oui, tu es le maître de l'univers. Tu es celui qui tient les temps et les circonstances dans ta main. Qui dit-on que je suis ? Vous connaissez cette définition de la foi dans Hébreu ? Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, la démonstration de celles que l'on ne voit pas. J'ai regardé la définition d'une ferme assurance, le mot qui est utilisé. Il est dit, c'est ce qui a un fondement, qui est ferme, la constance de l'esprit, la fermeté, le courage, la résolution. Oui, quand l'épreuve est là, quand tout secoue, est-ce qu'on est toujours capable de dire au Seigneur Jésus, écoute, je ne vois pas l'issue, mais tu es celui qui règne. Je ne vois pas comment je vais m'en sortir, j'ai même l'impression de couler, mais je veux être ferme dans mes sentiments, je veux avoir cette constance de l'esprit qui me dit, par rapport à ce que j'ai lu, par rapport à ce que j'ai vécu, et à cette vérité qui est dans la parole, que tu es celui qui règne, d'éternité en éternité. Que tu es celui qui ne change pas, qui ne varie pas. Tu es toujours le même. La foi ne doit pas dépendre des circonstances. J'ai la foi quand tout va bien, je doute quand il y a les épreuves. Notre foi doit être vraiment en Jésus-Christ. Et cette question-là, ces épreuves-là, peuvent vraiment nous aider à nous recentrer sur la personne de Jésus-Christ. Que la connaissance que nous avons de Jésus ne soit pas une connaissance intellectuelle. Que ce que nous connaissons de la parole de Dieu ne soit pas seulement dans notre tête, mais qu'elle puisse s'appliquer dans notre vie de chaque jour. Que chaque jour, nous puissions vraiment prendre le temps de considérer qui est Jésus. Qui dites-vous que je suis ? Que la réponse que nous puissions donner à cette question ne soit pas simplement celle de Pierre, parce que nous la connaissons par cœur. Tu es le Messie. Mais que ça soit le résultat d'une vie, le résultat d'une expérience personnelle. Il y a une troisième question que j'aimerais voir avec vous. Et on va l'introduire par la fin de ce verset dans l'évangile de Marc. Il est rappelé la même histoire de Jésus qui marche sur les eaux. On va reprendre, c'est au chapitre 6. Et au verset, on va reprendre à partir du verset 50, il nous est dit. Car ils le voyaient tous et ils étaient affolés. Jésus leur parla aussitôt et leur dit, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Puis il monta près d'eux dans la barque et le vent tomba. Ils étaient en eux-mêmes extrêmement stupéfaits et étonnés. Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Donc on voit là une explication que le Seigneur Jésus donne par rapport à un miracle qui s'est passé précédemment. Et je voudrais introduire cette autre question introduire cette autre question avec ce verset-là. Et cette question se trouve dans un peu plus loin, toujours dans l'évangile de Marc. Au verset 17, il est dit, on va lire tout le verset, tout le passage à partir du verset 14. Chapitre 8, verset 14. Il nous est dit, les disciples avaient oublié de prendre des pains. Et ils n'en avaient qu'un seul dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. Attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, le sachant, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur le fait que vous n'avez pas de pain? Ne comprenez-vous pas et ne saisissez-vous pas encore? Avez-vous le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas? Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas? Ne vous rappelez-vous pas, quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5 000 hommes, combien de pains pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4 000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondit-il. Et il leur dit, Comment se fait-il que vous ne compreniez pas encore ? Si on veut des questions, on est servi. Dans ce passage, le Seigneur Jésus va poser 9 questions à ses disciples. 9 questions. J'ai retenu celle-là. Avez-vous encore le cœur endurci ? Avez-vous encore le cœur endurci ? On a vu dans le passage précédent, la fin de ce verset qui nous est dit, ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. On pourrait se poser la question sincèrement et se dire, mais comment est-ce possible ? Ses disciples étaient avec Jésus, ils voyaient presque miracle sur miracle, et pourtant leur cœur était endurci. On peut voir que leur cœur était endurci parce qu'ils n'avaient pas compris le miracle précédent. Ils n'avaient pas compris ce miracle des pains. Jésus va distribuer ces pains, 7 pains pour nourrir 4000 hommes. C'est pas mal. Et on va voir, et malgré ça, malgré ces choses extraordinaires que l'intelligence ne peut pas comprendre, mais ces hommes-là ont eu leur cœur endurci. Alors ce sont des disciples qui marchent avec Jésus et leur cœur est endurci. C'est pour ça que je me suis permis de nous poser cette question ce matin. Avez-vous encore le cœur endurci ? Nous sommes des disciples. Nous marchons avec Jésus. Mais est-ce que notre cœur n'est pas endurci ? Alors je suis parti chercher la définition. Endurci. Recouvrir d'une peau épaisse. Durci par le recouvrement d'une callosité. Rendre le cœur dur et gris. Durci par le recouvrement d'une callosité. Une callosité, souvent on a ça sur les pieds, sur les talons, où la peau se durcit de plus en plus. Alors ça a un effet protecteur, mais des fois, quand c'est trop, c'est trop. Et des fois, il peut se passer la même chose dans nos cœurs. Il peut avoir des couches et des couches et des couches. Et encore des couches, au point que plus rien ne peut pénétrer dans notre cœur. Et notre cœur devient endurci, fermé. Et quand ce cœur est fermé, tout ce qui peut se passer autour, plus rien ne pénètre. Que ce soit des choses naturelles ou des choses surnaturelles, cela ne nous atteint plus. Alors il y a bien des raisons... Et nous ne les verrons pas tous ce matin, qui peuvent rendre un cœur endurci. Mais on va se concentrer sur les autres questions aussi qui sont autour de cette question. Avez-vous encore le cœur endurci ? Quand on regarde ces différentes questions qu'il y a autour, il y a souvent cette notion de compréhension qui revient. Ne comprenez-vous pas ? Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas ? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. La dernière question, c'est comment se fait-il que vous ne compreniez pas encore ? Donc il y a toute cette notion de la compréhension. Alors pareil, je me suis amusé à regarder un peu dans le détail, avec dans le grec, les mots qui sont donnés. Et il y a deux mots qui ressortent pour la compréhension. Le premier, il y a cette notion de... Ce mot signifie... percevoir avec l'esprit, comprendre, avoir de la compréhension. Et il y a un deuxième mot qui est utilisé, c'est adapter la perception avec la chose perçue. Adapter la perception avec la chose perçue. Donc il y a ces deux notions de la compréhension. Et donc on voit... que dans ce passage, le Seigneur Jésus fait vraiment une relation entre les choses que ces hommes ont vécues et leur non-compréhension. Et donc on peut déjà dire que les choses de Dieu, un peu tout ce qui est vraiment surnaturel, tout ça, ou même les œuvres du Seigneur Jésus, si elles ne sont pas comprises, peuvent soit nous aigrir, soit justement nous endurcir. Parce que le fait de ne pas comprendre peut-être la manière dont le Seigneur Jésus peut agir dans nos vies va peut-être créer une frustration dans nos cœurs. Parce que on peut le voir, des fois on a des raisonnements un peu arrêtés sur la manière dont le Seigneur Jésus veut que nous puissions, dont le Seigneur Jésus doit agir dans notre vie. On a tel ou tel problème, on est dans telle ou telle situation, et on attend à ce que le Seigneur Jésus agisse de telle ou telle manière. Parce que on s'est fait notre plan dans notre tête, on s'est fait notre idée, on s'est dit, mais le Seigneur Jésus doit intervenir et il doit faire ça. Et on part avec cette idée ancrée dans notre tête que et dans notre cœur que le Seigneur Jésus va agir comme cela. Et puis, ce Dieu si grand, si souverain, n'agit pas comme nous on l'avait prévu. Et cela peut créer une frustration en nous. Parce que l'incompréhension du pourquoi le Seigneur Jésus a agi comme ça va commencer à faire naître des raisonnements dans notre cœur. Et ça va être comme une couche qu'on va passer sur notre cœur. Une qui va fermer un peu plus notre cœur. Pourquoi, Seigneur Jésus, tu as agi comme ça? Ou pourquoi as-tu permis cela? Et pourtant, nous avons déjà répondu à cette question, qui dit-on que je suis? Mais oui, Seigneur, tu es le maître des temps et des circonstances. Mais pourquoi as-tu agi comme ça? Pourquoi as-tu agi comme ça, Seigneur? Non, je sais que tu es le maître des temps et des circonstances. Je sais que c'est toi qui règnes. C'est vrai, je me rappelle, il est marqué qu'au jour du déluge, tu étais sur ton trône et tu régnais. On est là, oui, amen, gloire à Dieu. Ok, mais ça c'était le déluge, Seigneur Jésus. Moi, dans ma vie, pourquoi tu n'as pas agi selon ce que j'avais prévu? Et on va remettre peut-être en question certains agissements du Seigneur. Et on ne va pas totalement saisir et comprendre le plan de Dieu. Les disciples n'avaient pas compris. Les disciples, il nous est dit, les disciples n'avaient pas compris le miracle des pains. Ils n'avaient pas compris ce que Dieu a fait ce jour-là, ce que le Seigneur Jésus a accompli sur cette terre. Ils ne l'ont pas compris. Ils ne l'ont pas compris et ça a endurci leur cœur. Ils ne l'ont pas compris au point que quand le Seigneur Jésus va leur donner une recommandation avec ce parallèle du pain, gardez-vous du levain, ils vont se dire, ah mais mince, on a oublié d'acheter du pain. Et le Seigneur Jésus, mais vous n'avez pas compris ce que j'ai déjà accompli. Vous ne vous rappelez pas, vous avez des yeux mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles mais vous n'entendez pas. Donc il est important de comprendre ce que le Seigneur Jésus fait. Bien sûr que on ne peut pas saisir toute l'œuvre de Dieu dans sa globalité. Et c'est pas ce que le Seigneur Jésus nous demande. Hier, avec les jeunes, on a regardé un film et où on voit 12 personnages différents qui sont confrontés tous à la croix. Et à la fin, il y a comme une narration où chacun a vécu des choses particulières. Et le narrateur dit, mais qui est capable de pouvoir dézoomer et regarder dans la globalité l'œuvre de Dieu? Parce qu'on voit ces 12 personnages qui sont confrontés tous à des situations différentes où ils sont tous confrontés à cette foi et à cette question qui est le titre du film, « Avez-vous la foi ?» Et chacun, à leur niveau, Dieu agit. Mais quand on dézoome, on a l'impression de voir que vraiment Dieu avait tout coordonné pour que chacun ait sa place là où il faut et pour que pleinement la croix soit prêchée dans leur vie à chacun. Alors nous ne sommes pas forcément capables de dézoomer pour voir l'œuvre de Dieu dans sa globalité. Mais dans notre vie, il nous faut accepter. Il nous faut essayer de comprendre ce que le Seigneur Jésus fait dans nos vies. Il y a un plan global pour l'humanité. On sait que Dieu veut sauver chaque être humain. Et il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour que chacun puisse avoir la possibilité d'être pardonné de ses péchés. Ça, c'est l'œuvre globale, le plan global de Dieu. On le voit depuis le début jusqu'à la fin. Il nous est présenté ce plan de salut de l'être humain. Mais il y a ce plan global, il y a un plan pour notre pays, un plan pour notre Église. Tout à l'heure, nous allons avoir ce jeûne et prière et nous allons rechercher la face de Dieu pour trouver, pour que le Seigneur nous révèle le plan de notre Église. Et puis, il y a dans notre vie ce plan que Dieu veut faire, ce que le Seigneur Jésus veut faire pour toi. Et il faut que tu puisses le comprendre. Il faut que tu puisses désirer le connaître. Et Dieu se révèle simplement. Dieu est capable de te dire ce qu'il veut pour ta vie. Dieu est capable de te diriger et te dire là où il veut t'amener. Mais il faut que tu puisses le comprendre pour que ton cœur ne puisse pas être aigri parce que tu n'as pas compris pourquoi Dieu agissait de telle ou telle manière. Et je reviens à ma question encore et encore. Qui dit-on que je suis ? Est-ce que la réponse que tu as donnée au début est la même que tu vas te poser et te donner maintenant ? Maintenant que nous avons vu un peu ces trois questions qui nous confrontent un peu. Que veux-tu que je te fasse ? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Et avez-vous encore le cœur endurci ? Ces trois questions sont là pour nous aider à répondre à cette question principale. Qui dites-vous que je suis ? Qui dis-tu que je suis ? Qui dis-tu que je suis ? Tu es le Fils de Dieu, tu es le Sauveur, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Qui dis-tu que je suis ? Pour résumer un peu ce que nous avons vu, que veux-tu que je te fasse ? Cette question nous aidera à ne pas donner de limites à Dieu, pleinement dans nos vies. Ne nous limitons pas notre Dieu. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? La foi, c'est la confiance. L'épreuve peut mettre en lumière notre foi ou notre manque de foi, et donc notre confiance en Dieu. Mais Dieu nous fait grâce, et quand il a posé cette question à ses disciples, c'était pour les rebooster, pour les encourager, pour leur dire, mais pourquoi as-tu douté ? Comprends qui je suis. Comprends qui je suis. Et avez-vous encore le cœur endurci ? La compréhension des choses spirituelles. La définition que nous avons, que je vous ai donnée tout à l'heure, adapter la perception avec la chose perçue. Recevoir avec l'esprit. C'est ça comprendre. Recevoir avec l'esprit. Adapter notre perception à celle des choses de Dieu. Que ce ne soit pas notre propre réflexion, mais que le Seigneur Jésus puisse nous donner son intelligence pour pouvoir comprendre son œuvre. Et notre compréhension des choses, des vérités spirituelles, gardera notre cœur de l'endurcissement. Et le Seigneur Jésus fait grâce, encore une fois, avez-vous encore le cœur endurci ? Cette question n'est pas une question de jugement, cette question est une question remplie d'amour. Avez-vous encore le cœur endurci ? Mais si ton cœur est endurci, si tu sais que certaines choses t'ont frustré, si certaines choses t'ont fait te refermer sur toi-même, le Seigneur Jésus peut venir et rendre tout à nouveau ton cœur malléable, tout à nouveau ton cœur perméable aux choses de Dieu. Tout à nouveau, le Seigneur Jésus peut venir se présenter à tes côtés et te dire, écoute, je vais te faire comprendre pourquoi je te fais passer par ceci ou par cela. Je vais toucher ton cœur tout à nouveau pour que ma grâce puisse pénétrer dans ton cœur au plus profond de toi, pour que tu puisses laisser tout ce qui t'a fait mal, toutes ces incompréhensions, tout cela. Le Seigneur peut tout à nouveau rendre ton cœur malléable. Qui dit-on que je suis ? Qui dis-tu que je suis ? Qui dis-tu que je suis ? Cette question, quand Pierre il va y répondre, on le voit dans l'évangile de Matthieu, le Seigneur Jésus après va dire, « Heureux es-tu, Pierre, parce que c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses-là, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Et j'aimerais finir avec ça. Qui dis-tu que je suis ? Ne doit pas être une réponse à l'intellectuel. Ça ne doit pas être une réponse parce que quelqu'un t'a dit que Dieu était grand, alors tu crois que Dieu est grand. La réponse à cette question ne doit pas être simplement le fruit d'une lecture. Ah oui, j'ai vu que c'était marqué à tel endroit que Dieu était l'alpha et l'oméga. Je l'ai lu. Donc je sais, Dieu est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Non. Heureux es-tu, Pierre ? Parce que c'est mon Père qui t'a révélé ces choses-là. Cette question doit être répondue parce que tu auras vécu des choses avec le Père. Parce que ta communion avec le Seigneur Jésus te permettra de rêver, d'avoir cette révélation personnelle de qui est Jésus. Et le fait d'avoir cette révélation par l'intimité, par la communion avec le Saint-Esprit, par, c'est vrai, la lecture de la parole, mais cette lecture qui devient vivante dans ton cœur. Le fait de pouvoir répondre à cette question parce que ça sera une conviction, parce que tu seras passé par l'épreuve, et qu'une fois sorti de l'épreuve, tu pourras dire comme Job, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Il y a toute une différence entre une chose qu'on a entendu parler et une chose qu'on a vécue. Il y a vraiment cette nécessité. Et c'est vraiment cet encouragement que je voudrais laisser sur votre cœur. C'est qu'il y a, vraiment cette possibilité, cette grâce d'avoir cette révélation pleine de la personne de Jésus-Christ. Et cela change tout dans nos vies. Quand cette conviction est là au fond de nous, parce que le Saint-Esprit nous a révélé que Dieu est le Dieu de la guérison, que Dieu est le Dieu de temps et des circonstances, que Dieu est celui qui tient tout dans sa main, qu'il n'est pas dépourvu, qu'il n'est pas pris de court. Quand ces choses-là sont inscrites dans notre cœur par la puissance du Saint-Esprit, peu importe ce qui se passe autour de nous, peu importe ce que les gens peuvent dire, peu importe ce que les situations peuvent être, tu le sais. C'est un fondement, une chose ancrée en toi. Et rien ni personne ne pourra le changer. Et c'est ce que le Seigneur Jésus veut pour nous. Il veut que nous puissions répondre à cette question. Qui dis-tu que je suis ? Toi, personnellement, sur ta chaise, qui dis-tu que je suis ? Qui dis-tu que je suis ? Et que cette réponse ne soit pas intellectuelle, mais que cette réponse puisse venir du fond de toi-même. Oui, tu es mon sauveur parce que je sais que tu m'as sauvé. Et je sais qu'aujourd'hui, si je meurs, je vais au paradis. Je vais dans ta présence, Seigneur Jésus. Je le sais, c'est une conviction au fond de moi. Ton Saint-Esprit me l'a révélé. Et on a besoin de ça. On a besoin de cette conviction. Nous marchons dans un monde compliqué où les épreuves de la vie sont dures. Et les tentations sont là. Mais qui dis-tu que je suis ? Qui dis-tu que je suis ? Alors que nous puissions garder cette question au fond de nous. Et quand peut-être nous serons dans le creux de la vague, que ces questions que nous avons vues juste avant, que veux-tu que je te fasse ? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Où avez-vous le cœur endurci ? Ne sois pas là comme des marteaux sur nos vies, mais qu'elles puissent nous aider à nous recentrer. Oui, c'est vrai, il y a ces questions qui sont là. Mais ces questions me servent à comprendre qui tu es. Parce que ces questions ont été posées par le Seigneur Jésus, plein d'amour et de grâce, plein de bonté, plein d'équilibre, plein de sens. Quand le Seigneur Jésus pose des questions, ce n'est pas pour nous embarrasser, nous embêter, mais c'est parce que ces questions ont du sens. Ces questions ont une valeur, ces questions ont un poids. Et ces questions nous aident à nous recentrer sur lui. Nous aident à nous remettre sur le bon chemin, sur le droit chemin. Nous aident à nous recentrer dans sa présence. Alors, qui dit-on que je suis? Qui dis-tu que je suis? Je vais m'arrêter là. Je vais prier. Que vraiment le Seigneur Jésus puisse nous conduire encore à vivre et à expérimenter cette grâce, d'avoir la révélation de son esprit, de la personne de Jésus-Christ. Nous le voyons tout au long de la parole, il y a tant et tant de personnages dans la Bible. On pourrait prendre l'exemple de Pierre, on pourrait prendre tant d'exemples d'hommes de Dieu qui ont eu besoin d'apprendre qui était Jésus. Et nous en sommes là aussi pour notre part, avec cette question qui résonne, qui dis-tu que je suis? Cette question est pleine de grâce, pleine d'amour. Ne la vois pas comme une persécution, mais voilà comme vraiment une occasion que le Seigneur Jésus te donne. Peut-être que tu ne peux pas répondre à cette question ou tu peux simplement dire, écoute, je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas. Un peu comme tous ces gens qui étaient là, les uns disaient quelque chose, les autres disaient autre chose. Et peut-être que tu es là avec cette question et tu dis, mais moi, je ne peux pas y répondre. Mais ouvre ton cœur, simplement, et Dieu se révélera à toi. Le Seigneur Jésus se révélera à toi pour te montrer qui il est. Et demain, tu pourras dire, oui, maintenant, je sais qui est Jésus. Oui, maintenant, je le sais. Oui, je le sais. Seigneur Jésus, je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que tu prends soin de nous. Et merci parce que ta parole est là pour nous exhorter, nous encourager. Merci pour ces questions que tu as posées dans ta parole. Merci pour toutes ces questions que tu as posées à tes disciples. Car aujourd'hui encore, elles nous sont utiles. Car aujourd'hui encore, elles ont une résonance dans nos vies. Et je te prie, Père éternel, c'est vrai, pour que tu puisses continuer à te révéler dans nos vies, pour que tu puisses continuer à nous montrer qui tu es. Car nous avons soif et faim de toi, Jésus. Nous avons soif, c'est vrai, de découvrir pleinement qui tu es. Merci pour ta parole, Jésus. Merci pour ce que tu fais. Bénis notre assemblée encore. Bénis notre Église, Jésus. À toi l'honneur et la gloire, mon Père. Amen.